Ok, ce week-end, on était là pour la question du travail. Et on va effectivement continuer. Hier, on a abordé un peu la question comment Dieu a voulu le travail, notre activité. Et c'est vrai qu'on a vraiment élargi cette définition du travail. À l'origine, ce n'était pas un travail rémunéré, n'est-ce pas? Adam et Ève n'étaient pas payés. Mais simplement, le travail, notre activité, concernait tout le monde. Et c'est cette manière dont on reflète Dieu, en fait. Dieu travaille. Dieu est un Dieu qui travaille. Et quand on travaille, alors on reflète celui qui nous a créés. On est à son image, à sa ressemblance. Et c'est pas seulement un travail rémunéré, mais aussi le travail non rémunéré d'un parent au foyer, d'un bénévole dans une association, d'une personne âgée aussi qui s'engage de différentes manières, qui est à la retraite. L'activité, simplement le fait de mettre en route les compétences que Dieu nous a données, que ce soit des compétences intellectuelle, manuelle, artistique, créatrice. Dans tout ça, on agit. Et en tout ça, on reflète le Dieu qui nous a créés à son image. Et c'est sur ce thème-là qu'on a plus réfléchi. Et comme Jésus l'a dit, c'est vrai que ça a été vrillé, ça a été cassé, brisé par la révolte, le fait de dire à Dieu, au revoir, tu ne nous intéresses plus, ce qu'on veut, c'est nous maintenant, c'est nous qui allons décider, c'est nous qui allons faire ce que l'on veut. Mais Dieu nous a pas laissés dans cet état, est intervenu, est redevenu, donner du sens à notre vie par la réconciliation, il est venu nous reprendre à lui, mais pas seulement ça. Jésus est venu non pas pour régénérer notre relation avec lui, mais il est revenu pour régénérer toute chose avec lui. Et ça touche toutes nos relations et toute notre activité, y compris notre activité rémunérée, y compris notre activité non rémunérée. La réconcilier, la reprendre avec lui. Et on va poursuivre donc avec le fait que l'Évangile donne une nouvelle opportunité à notre travail, à notre activité. Alors excusez-moi, hein, c'est vrai que je prends facilement le raccourci de parler de travail, mais ne voyez pas seulement la notion d'activité rémunérée, d'accord? À chaque fois que vous entendrez le mot travail, c'est vraiment aussi pour l'activité non rémunérée, qu'on soit étudiant, ça fait partie des compétences que Dieu nous a données et de vivre à sa gloire, qu'on soit chômeur, qu'on soit parent au foyer, qu'on soit retraité. Verset qu'on connaît assez bien en général, n'est-ce pas? Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et vous savez que ici, Paul parle donc à l'église à Rome, et il parle de cela dans un contexte de souffrance, n'est-ce pas? C'est dans un contexte de souffrance où l'église est mise à mal, parce que, entre autres, simplement, on vit dans un monde en souffrance, parce qu'on vit dans un monde rebelle à son Créateur, nous sommes touchés par la souffrance à différents niveaux, que ce soit une persécution, que ce soit la maladie, que ce soit la faiblesse qui nous gagne avec l'âge. On est tous touchés par la souffrance parce qu'on vit dans un monde en souffrance. Et Paul nous dit que dans cela, Dieu travaille, Dieu coopère à notre bien. Mais Paul poursuit ici et nous donne l'explication, en fait, le but que Dieu veut au travers de cette souffrance qu'il non seulement permet, mais même au final donne. Parce que voilà le but. On continue. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Dieu permet la souffrance dans nos vies parce que Dieu a un but plus grand que simplement la souffrance. La souffrance, en final, n'est qu'un moyen. Mais voilà le but de Dieu pour chacun d'entre nous, nous rendre semblables à l'image de son Fils. Et ça, qu'on prend le temps d'y réfléchir, c'est quand même impressionnant, n'est-ce pas? Dieu veut non pas qu'on soit divin, mais qu'on soit saint et nous inclure dans l'intimité de la Trinité. Il veut nous faire participer à son amour et à cette unité. Et en fait, c'est le but de Dieu depuis la création, n'est-ce pas? Quand on relit les chapitres 1 et 2 de la Genèse, Dieu a toujours voulu se faire un peuple d'adorateurs et vivre au milieu de ce peuple, n'est-ce pas? C'est ce refrain qu'on retrouve assez souvent dans l'Ancien Testament, « Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. » et j'habiterai au milieu de vous. N'est-ce pas? Et voilà ce à quoi Dieu nous invite, et voilà ce que Dieu veut faire au travers de la souffrance. Et il a commencé, il a initié cela, il a permis cela par le sacrifice de Jésus-Christ, dont on va se souvenir tout à l'heure par la Sainte Cène. Mais il développe, il poursuit cela, une fois qu'on a été acquis par Jésus-Christ, il poursuit cela par la souffrance, mais pas que. Effectivement, remarquez, ici, le texte nous dit que toute chose coopère, pas que la souffrance, toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans le cas de notre thème de ce week-end, ça veut dire aussi par notre travail, par notre activité, Dieu coopère. Dieu nous rend semblables à Jésus-Christ aussi par notre activité. Activité, encore une fois, de parents à la maison, activité d'étudiant, activité quand on est au chômage, activité à la retraite, activité rémunérée. Et on va se poser cette question. Alors, en quoi notre activité participe? En quoi l'activité est un outil dans les mains de Dieu pour nous rendre semblables à Jésus-Christ? Et j'aimerais avec vous survoler rapidement trois textes ce matin. Premier texte, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Exode, au chapitre 16. Le peuple vient de quitter l'Égypte, il a traversé la mer des joncs par ce grand miracle que Dieu a fait avec cette ouverture de cette mer. Le peuple vient de célébrer Dieu pour ses grands miracles, entre autres cette ouverture, mais aussi il a vu les 10 signes que Dieu a fait dans le pays, en Égypte, pour le libérer. Et voilà la réaction du peuple. Verset 1 du chapitre 16. Toute la communauté des Israélites partit d'Élim pour arriver au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Alors, toute la communauté des Israélites murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les Israélites leur dirent, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangeions du pain à satiété, car vous nous avez fait venir dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. » Le peuple sortira et en recueillera, jour par jour, la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et verrai s'il marche ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il y en aura 2 fois plus que ce qu'ils récoltent chaque jour. Donc Israël vient de sortir et marche en direction du Sinaï. Et forcément, on est 600 000 hommes, donc avec les femmes et les enfants, on est un peu plus, se pose naturellement, logiquement la question, mais qu'est-ce qu'on va manger? Et c'est chaud dans un désert, franchement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir manger? Comment nourrir tout un peuple? Mais ce peuple qui a vu les grands miracles de Dieu râle. Il râle. Qu'est-ce qu'on était bien en Égypte? Qu'est-ce que c'était bien quand on nous fouettait? Qu'est-ce que c'était bien quand on devait jeter nos premiers nés dans le Nil pour qu'ils soient bouffés par les crocos? Qu'est-ce qu'on était bien, sérieux? Au lieu de simplement demander, il râle. Mais Dieu ne refait pas de reproches à ce moment-là, mais il va pourvoir avec la manne. Et la suite du texte nous apprend que c'est une sorte de graine qui ressemble, quand on la cuit, à de la coriandre et qui a un goût de miel. Et tous les jours, en fait, il devait sortir pour en ramasser. Jour après jour, chaque jour, sortir pour en prendre la quantité nécessaire. Et cela, 6 jours par semaine. Parce que, en fait, Dieu a dit, ça ne se conservera pas. En fait, si vous en conservez pour le lendemain, ça va pourrir. Effectivement, certains ont essayé et c'était dégoûtant. Mais Dieu a dit, par contre, le 6e jour, ça va être différent. Le 6e jour, vous pourrez en ramasser le double, parce que le 7e jour, je vais rien vous donner. Le 7e jour, vous allez vous reposer, et c'est la première fois qu'on entend parler ici du sabbat, que Dieu va instituer le sabbat. Le 7e jour sera un jour de repos, et donc pour cela, je vais pourvoir au double la veille, et je vais faire ce miracle que, en fait, tous les autres jours ça pourrit, mais ce jour-là, exceptionnellement, ça ne pourrira pas. Et bien sûr, certains sont sortis aussi le septième jour, et, grand désespoir, ils n'ont rien trouvé. Mais au travers de cela, en fait, voilà la question que Dieu posait, au peuple. Est-ce que vous avez confiance en moi? Je pourvois tous les jours. Il y a un jour, je vais vous donner plus. Donc ça veut dire que vous serez tranquille, pas besoin de travailler. Est-ce que vous avez confiance en moi? Est-ce que vous croyez que je vous aime assez pour vous donner ce que vous avez besoin? Donc c'est vraiment cet appel à la confiance en l'amour de Dieu. Il ne faut pas oublier que, voilà, on est dans le désert, on n'a pas de frigo, on n'a pas de congélateur, on n'a rien. Et Dieu va poursuivre ce commandement après la sortie d'Égypte, n'est-ce pas? En fait, dans le désert, lorsque Dieu va donner sa loi, il va inscrire cela dans les 10 commandements. Pendant 6 jours, tu vas travailler, mais le 7e, tu t'arrêtes. Dernièrement, mes parents m'ont fait la remarque, ma mère qui est suisse, il y a une chose qui l'a vraiment marqué en revenant en Suisse, c'est que maintenant, le dimanche, les paysans travaillent. Alors que quand ils étaient jeunes, les paysans respectaient le dimanche. Et ils ne travaillaient pas, ils respectaient quelque part ce temps à part pour Dieu. Et ils cessaient leur activité. Et c'était un peu la même chose pour eux, après, quand ils étaient dans le pays. C'est que comme pour nos Suisses actuellement, il y a la crainte, mais et s'il y a la grêle, s'il pleut, qu'est-ce qui va se passer de nos récoltes? Et si on n'a pas assez? Et effectivement, pour eux, c'est la même chose. On vit dans un monde agricole. Et si on ramasse pas, on risque de tout perdre. Ou d'avoir moins de rentrées. Et également, l'ouvrier. Il n'avait pas un contrat comme nous, il n'avait pas sa paye à la fin du mois, n'est-ce pas? En fait, il sortait, il se mettait sur la place publique, il disait, qui veut m'embaucher? Et quelqu'un venait, passait, l'embauchait, et à la fin de la journée, il lui donnait son salaire. Mais ce qui veut dire que si personne l'embauchait, il n'avait pas de salaire. Et s'arrêter un jour veut dire pas de salaire. Avec la femme à nourrir, avec les enfants à nourrir, peut-être la belle-mère à nourrir, et tout ça, n'est-ce pas? Donc quelque part, s'arrêter un jour, c'est un acte de foi. Par la cessation du travail, Dieu nous apprend la foi. Parce qu'en fait, il nous dit, mon ami, c'est pas toi qui travailles. L'ultime travailleur, c'est moi. C'est moi qui fais pousser. C'est moi qui fais pleuvoir. C'est moi qui contrôle les saisons. Et c'est moi qui t'aime. Et qui me suis engagé à te donner ce que tu as besoin. Encore une fois, on en a parlé hier. Notre besoin, c'est pas notre désir, n'est-ce pas? Notre besoin, c'est pas une grande maison. Notre besoin, c'est pas un frigo et un congélateur qui débordent, n'est-ce pas? Ça, c'est le plaisir de Noël bientôt, hein. Mais notre besoin après, c'est d'un médecin pour digérer. Mais Dieu a dit, ton besoin, je vais pourvoir. Je te donnais ton vêtement, je te donnais ta nourriture, un jour après l'autre. Et au travers de cela, je vais t'apprendre la foi. Est-ce que tu as confiance en moi? Est-ce que tu penses que je t'aime suffisamment pour prendre soin de toi? Et ça, c'est vrai pour nos paysans en Suisse, encore actuellement, c'est vrai. Mais c'est vrai pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Un des défis que moi j'ai eu, avant j'étais prof, et c'est mon rapport à mon salaire en fait. Avec Claire, on s'est mariés, j'étais encore étudiant, je me suis fait entretenir pendant une année, c'était très agréable. Et on est parti en voyage de noces, en fait. Et pour se marier, pour aller habiter là où je faisais mes études, Claire a démissionné. Et donc, on s'est mariés, on est parti en voyage de noces et on n'avait pas de travail. Ni l'un ni l'autre. Moi, si moi j'avais mon travail, c'était mes études. Et j'avais personne pour me soutenir à ce moment-là. Et alors, on a prié vraiment dépendance à Dieu. On est rentré, Claire est partie chercher candidature spontanée. Au bout de 2 jours, elle avait un travail. Dieu a pourvu. Et voilà, on était vraiment dans la reconnaissance. On voit, Dieu prend soin, Dieu pourvoit à ceux dont on a besoin, n'est-ce pas? Et après, on a eu d'autres moments difficiles. Il y a eu des aides que moi j'avais en tant qu'étudiant qui étaient enlevées. Et voilà, quelques mois un peu difficiles. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on fait? Est-ce que je dois arrêter mes études? Est-ce que je dois travailler? Alors, c'était le moment où je passais mon concours, donc on redouble de prières pour réussir le concours de l'enseignement. Et Dieu a permis que j'aie ce concours-là. Donc, je ne raconte pas la joie quand j'ai eu mon premier salaire. C'est, ah, ça y est, quelque part, on retrouve une aisance, on retrouve un confort. Mais ce que j'ai observé, malheureusement, ce qu'on a observé, c'est que ce salaire, on s'y habitue, n'est-ce pas? Au début, qu'est-ce qu'on est reconnaissant? On dit merci à Dieu à chaque fois qu'il tombe sur le compte, n'est-ce pas? Mais au bout de quelques mois, j'ai travaillé pour, n'est-ce pas? J'ai étudié pour, c'est normal. Et on ne devient plus dépendant de Dieu. Et on vit ce drame-là, chacun d'entre nous. Quelque part, on a tellement pris l'habitude d'être gérant de notre vie, de penser au final qu'on maîtrise tout. Et si on regarde un peu parfois nos planifications de vie, on planifie notre travail, notre achat de maison, notre mariage, nos enfants, et parfois on planifie même notre ensevelissement. On cherche à tout gérer, à tout contrôler. Mais parfois le chômage met un grand coup de pied là-dedans. Ou alors la maladie. Ou alors la crise économique. Et on voit, au final, qu'est-ce qu'on gère vraiment? Et on s'aperçoit qu'on gère rien, n'est-ce pas? Mais ce qu'on apprend au travers de cela, c'est qu'on doit revenir à la reconnaissance. Que ce que j'ai, c'est pas grâce à moi. Que ce que j'ai, c'est grâce à Dieu qui prend soin de moi. Et Dieu a institué le sabbat pour cela. Non pas simplement pour qu'on puisse dormir, mais qu'on puisse dire, ma vie ne dépend pas de mon travail. Ma vie dépend du Dieu qui m'aime. La cessation du travail m'apprend la foi et en cela, Dieu me sanctifie. Dieu transforme ma vie. Dieu m'apprend, Philippe, c'est quoi le but de ta vie? C'est quoi la valeur de ta vie? C'est quoi ce qui est le plus important dans ta vie? Et ça nous permet de nous échapper à ce qui nous happe tellement. Quand on est étudiant, on met tout sur nos études, on oublie le reste. Quand on travaille, on met tout sur notre travail et on oublie le reste. Et effectivement, on en parlait hier avec d'autres personnes, on utilise quel vocabulaire pour parler de ça? On sacrifie. Parfois, on sacrifie notre santé, on sacrifie notre couple, on sacrifie nos parents, on sacrifie plein de relations. Parfois, on sacrifie Dieu, on sacrifie, on est dans le terme du culte. Ce qu'on doit à Dieu, on l'offre à quelqu'un d'autre. Et Dieu nous dit, à mon ami, tu dois t'arrêter. Tu dois t'arrêter. Et si tu ne le fais pas, qu'est-ce que ça montre? Qui c'est que tu aimes vraiment? Qui c'est que tu sers vraiment? Qui est ton Dieu vraiment? Par la cessation du travail, Dieu nous apprend la foi en son amour bienveillant. Deuxième texte que je vous propose, Nouveau Testament, Romains 12. Versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Chose étonnante dans notre texte, c'est que Paul dit, je vous exhorte. Je vous exhorte à offrir vos corps comme un culte raisonnable. Pourquoi Paul a besoin de nous dire ça? Pourquoi Paul a besoin de nous dire, je t'exhorte, Philippe. Je t'exhorte, Église de Wittenheim, à offrir à Dieu ta vie, ton corps, comme un culte raisonnable. Pourquoi il a besoin de dire ça? Pour nous encourager. Et pourquoi on a besoin d'être encouragé à le faire? Parce qu'on n'a pas envie. Parce qu'on n'a pas envie. Parce que naturellement, en fait, on ne le fait pas. Et donc, Paul a besoin de nous rappeler l'Évangile, chapitre 1 à 11, afin de nous motiver ici à le faire. Parce que naturellement, en fait, on ne le ferait pas. Effectivement, sa réponse n'est pas très agréable, n'est-ce pas? Un de mes amis était un ingénieur, c'est une grande boîte, un ingénieur doué, bien reconnu dans son travail, qui faisait bien son travail habituellement. Et un jour, il a fait une erreur, comme ça nous arrive à tout le monde, on est des êtres humains, il a fait une erreur dans son travail. Il s'est fait convoquer par son patron et il s'est fait sermonner et il était très très mal. Il est retourné à son bureau et la chose qu'il a fait, c'est que sa colère, sa tristesse profonde d'avoir été repris, sa blessure dans son orgueil est ressortie sur sa secrétaire. Et c'est elle qui a tout pris. Il a fait passer toute sa rancœur et sa colère sur elle. Et elle était absolument pour rien. La faute, c'est que lui qui l'avait fait. Le lendemain, il est arrivé au travail et il a dû lui dire, excuse-moi, je te demande pardon. Tu n'as rien fait, c'est moi qui ai fait le mal. C'est moi qui me suis planté et je me suis défoulé sur toi. Je veux te demander pardon. Est-ce que ça vous arrive? Si ça n'arrive pas au travail, est-ce que ça arrive parfois on a une sale journée, on rentre à la maison, et qu'est-ce qui se passe? Il y a des enfants qui disent oui. Est-ce que ça arrive sur le conjoint aussi? Voilà ce que dit Frédéric de Coninck dans un de ses livres sur le travail. Ouais, ça, c'est top. Donc, le travail, c'est notre deuxième partie pour révéler mes idoles personnelles, ce que je voulais mettre après en avant. Il dit ceci: le travail, l'action ou le militantisme sont des épreuves de réalité, des moments où nous nous heurtons aux autres, au réel et à ses limites, pardon, qui nous font avancer, mais qui nous ramènent également sur terre. Ce sont des écoles d'humilité, de patience, mais aussi d'espérance. Alors ne disons pas d'emblée que tout est facile. Il nous appelle à cette humilité de dire oui, le dimanche, franchement, c'est facile. C'est facile d'avoir le sourire, c'est facile de se dire bonjour, c'est facile de chanter, pas de problème. Mais dans notre activité, quand on va au boulot, quand on est toute la journée avec les enfants, quand on doit prendre soin des beaux-parents ou des parents vieillissants, quand, etc. À vous de mettre la suite. Mais dans notre activité, Dieu nous montre ce qu'il y a encore à l'intérieur, n'est-ce pas? En nous confrontant aux autres, en nous confrontant à d'autres réalités, à d'autres situations qui sont difficiles et pénibles. Comment il fait ça? Vous voyez ce pot-là? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? De la terre, vous le devinez. Mais vous ne le voyez pas, n'est-ce pas? Comment il faut faire pour voir ce qu'il y a à l'intérieur? Il faut le casser, il faut le renverser. Et c'est ce que Dieu fait par notre travail. La sale terre, l'eau pourrie était déjà à l'intérieur, n'est-ce pas? Mais ça ne se voyait pas. C'était une jolie plante, elle paraît belle, il n'y a pas de problème. Mais c'est dans l'épreuve, dans la difficulté, quand le pot est renversé, qu'on voit la cochonnerie à l'intérieur. Et Dieu utilise notre travail. Dieu utilise notre implication à la maison. Dieu utilise toute notre activité pour nous montrer, regarde Philippe, la cochonnerie qui est encore à l'intérieur. Et ça, on doit le transformer. Ça, on doit le travailler. Il me montre mon orgueil par le travail. Il me montre mon manque d'amour. Il me montre mon sexisme. Il me montre mon racisme. Il me montre tout ce qui ne va pas, mon esprit tordu, etc. En fait, il me montre le culte du moi ou le culte d'autre chose. D'où cet appel, je vous exhorte donc, frères. Parce que dans la réalité, dans mon quotidien, il y a d'autres cultes qui s'exercent. Et dans sa bonté, Dieu ne me confronte pas à moi-même juste pour m'écraser, pour m'enfoncer. Mais c'est vrai que c'est humiliant, mais comme le dit de Coninck, c'est une école aussi d'espérance. Une école d'espérance. Parce qu'il y a la grâce. Parce que Dieu nous dit, je te montre ça, c'est pas beau, hein? Mais on va le changer. On va travailler ensemble. Et la base du travail, c'est la grâce. C'est que le pardon est déjà payé. Le pardon a déjà été donné par Dieu. Et maintenant, parce que le pardon a déjà été donné, alors on peut aller de l'avant. On peut aller travailler. Mais au final, ça veut dire que Dieu nous apprend à nous laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est ce que Paul dit dans son épître aux Galates, n'est-ce pas? N'accomplissez pas les œuvres de la chair, ce qu'on fait dans notre activité régulièrement, mais marchez par l'Esprit. Et c'est un impératif, n'est-ce pas? Marchez par l'Esprit. Laissez-vous conduire par l'Esprit. C'est-à-dire que Dieu va, on peut parler hier, désolé, mais Dieu va me placer avec des gens peu aimables. Parce que le but de Dieu, c'est le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et Dieu veut m'apprendre à aimer. Dieu va me placer avec des situations où franchement je ne serais pas joyeux naturellement. La maladie? Le chômage? Ou autre? Et au travers de cela, Dieu va m'apprendre c'est quoi la vraie joie. De quoi ma vie dépend? Quel est le sens de ma vie? Quelle est ma valeur? Il va travailler en moi ce fruit également de l'esprit. Il va me placer dans d'autres situations où la patience ne serait pas là. Hier, on a appris que notre voiture était en panne. Donc on ne peut pas retourner chez nous à la maison. On est embêté là. Donc les enfants éclairent pour partir en train. Moi, je suis bloqué ici pour attendre que la voiture soit réparée. Et la tendance, c'est quoi? C'est qu'on a tendance à s'énerver, n'est-ce pas? À pester sur le garagiste qui a mal fait son travail. Et Dieu nous apprend la patience au travers de cela. Il nous dit, Philippe, il y a encore du travail là. Ça ne va pas. Le gars, il n'y peut rien. Ma voiture n'y peut rien. Mais moi, j'y peux quelque chose. Marcher par l'esprit. Et vous remarquez encore une fois que c'est un impératif. C'est-à-dire que, en fait, je peux accepter ou je peux refuser. Et dans ces situations-là, où Dieu me montre ce qui ne va pas, quel est le choix que je fais? Est-ce que j'accepte de le suivre? Est-ce que j'accepte de dire que ça ne va pas et il y a un autre culte à rendre? Ou alors, je continue sur moi-même. Alors, attention avec cela, hein, il est clair que le problème n'est pas les autres, hein. Je suis le pénible de plein d'autres personnes. Tu es le pénible de plein d'autres personnes. Le problème n'est pas l'autre, hein. Le problème, il est là. Et j'aimerais te laisser cette réflexion, ou plutôt cette proposition. Choisis une personne. Prends le temps de réfléchir à une personne ou à une situation. Prends le temps de réfléchir à une personne avec qui c'est dur, avec qui c'est pénible. Toi, cette personne où t'as tendance à dire, c'est elle le problème. C'est elle qui m'énerve. C'est elle qui m'irrite. C'est elle qui a tort. C'est elle, etc. Ou une situation particulière dans ton activité. Qui te montre tes idoles, qui te montre le culte que tu ne rends pas à Dieu. Et prends le temps de réfléchir sur cette situation. Qu'est-ce qui devrait changer? Comment je pourrais changer? Comment marcher par l'esprit dans cette situation? Et de prier pour cette personne. De prier que Dieu transforme ton attitude dans cette situation, face à cette réalité, quelle qu'elle soit, afin que Dieu te permette que par ton activité, par ton travail, Dieu révèle ton idole. Et cassent, détruisent cette idole pour offrir ce culte à Dieu. Et troisième texte que je vous propose, c'est dans 1 Pierre, au chapitre 2. Et je lis les versets 11 et 12. 1 Pierre 2, 11 et 12. Bien-aimés, je vous exhorte, en tant qu'étrangers et voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. Dieu nous donne le travail d'être confrontés à nos amis non-croyants dans le but de le refléter. Cette nouvelle opportunité nous rend semblables à Christ pour être des témoins comme lui pour le royaume de Dieu. Et cette bonne conduite à laquelle nous sommes appelés, c'est cette finale application de l'adoration. Au final, c'est ce que nous apprenons aujourd'hui. C'est le débouché de notre temps de chant, c'est notre débouché de notre chant, de notre temps de prière, c'est le débouché de notre temps de célébration de la Sainte Cène, de la mort et résurrection de Jésus-Christ, qu'on va vivre avec nos collègues, avec nos amis, avec nos familles non croyantes. Et Pierre nous dit, ça ne va pas toujours être bien compris. Ils ne comprennent pas forcément pourquoi on agit de telle ou telle manière. Pourquoi on fait d'autres choix. Et il nous dit, à cause de cela, il y aura des critiques. Ils vont vous calomnier comme faisant le mal. Comme faisant le mal. Mais Pierre nous exhorte, nous encourage ici, persévérons. Continuons. Pourquoi? Parce que ça a du sens. Parce qu'un jour, Dieu va les visiter. Un jour, Dieu va intervenir. Dieu visite les hommes, il les interpelle d'une manière ou d'une autre. Mais dans l'attente, il les prépare, il prépare leur cœur par notre manière de vivre, par notre manière de travailler, par notre manière de parler, par notre manière d'avoir des priorités dans notre vie, par nos manières de considérer les autres, par les valeurs que nous donnons à chaque chose et à chacun. Il les prépare, prépare leur cœur pour que le jour de sa visite, nos amis, nos collègues puissent mettre les pièces du puzzle ensemble et comprendre. Ah, c'était ça. C'était ça. Et au final, je vois maintenant que l'évangile dont on m'a parlé, ce Jésus-Christ dont on m'a parlé, en fait, je vois, parce que je l'ai vu en action, je vois que c'est raisonnable. Je vois que ça tient la route. Je vois que c'est logique. Parce que je l'ai vu en action chez tel ou tel collègue. Et à leur tour, ils pourront célébrer, nous dit Pierre, Dieu. Et Pierre continue, chapitre 3, verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs, alors pour cela, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte. Sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur, dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos relations, que ce soit pour Christ, que ce soit le Seigneur qui soit en priorité, même si c'est parfois à notre détriment. Que ce soit lui qui soit mis en avant, que notre attitude au travail puisse compter et influencer quelque part de manière mystérieuse. Nous, on ne le contrôle pas, on ne le maîtrise pas, mais c'est la promesse et l'intervention ici que Pierre nous fait. Notre influence compte. À cause de cela, faisons-la compter. Incorporons notre travail, incorporons notre activité dans l'ensemble de notre vie chrétienne, parce que Dieu nous fait la promesse, et cela compte. Ça va agir dans la vie des personnes autour de nous. Alors même si on ne le voit pas tout de suite, et peut-être qu'avec certains collègues, avec certaines amitiés, on ne le verra jamais, mais ça appartient à Dieu. Mais qu'on puisse le vivre différemment, qu'on puisse prendre ce risque de le vivre différemment pour que lui soit honoré, pour que lui puisse utiliser notre vie et se révéler. Notre travail est une nouvelle opportunité pour refléter, pour révéler Dieu afin que lui soit connu autour de nous. Notre travail, encore une fois, en tant qu'étudiant, notre travail en tant que chômeur, notre activité, notre manière de conduire notre vie, nos priorités dans nos couples, dans notre activité rémunérée, dans notre retraite, dans notre temps qu'on se retrouve ensemble, alors que ça faisait tellement longtemps qu'on n'était plus ensemble à cause de notre activité rémunérée ou des enfants. Que notre manière de vivre, on puisse s'y attacher et abandonner cet attachement à nous pour le mettre de côté, pour dire maintenant, c'est pour Dieu. Notre travail revêt donc un nouveau sens avec notre conversion. Il interdit la suffisance de la spiritualité du dimanche pour nous conduire dans une spiritualité de tous les jours, pour révéler nos cœurs tortueux, pour révéler nos faux raisonnements, nos mauvais raisonnements, et pour nous apprendre à faire de toute notre vie ce culte logique, ce culte raisonnable, ce culte qui plaît à Dieu. Ce culte au final où Jésus-Christ, qu'on aime beaucoup appeler Seigneur, est vraiment Seigneur. Ce n'est pas simplement notre manière de lui parler, mais que ce soit notre réalité dans notre vie. Et que ce soit un culte où Dieu, au final, répand sa paix et sa justice par nous, en nous et au travers de nous. et jamais au détriment ni de Dieu, ni de notre famille. Et ça, c'est important. Ni au détriment de Dieu, ni au détriment de notre famille. Et ça, c'est un thème que je laisse à Josué et que ou que je vous laisse à chacun, mais c'est vrai, cet équilibre. Parce que notre travail est un culte. Parce que toute activité est un culte. Parce que Dieu nous appelle à le servir aussi au sein de l'Église. Comment trouver ce bon équilibre entre notre service dans l'Église, entre nos temps de la famille et entre notre travail? Parce qu'au final, aucun n'est en concurrence, mais les trois servent le même but, servir Dieu. Et tout cela, nous a rappelé les différents auteurs, provient de la grâce. C'est parce que lui nous a gagnés. C'est une réponse à la grâce. C'est cette grâce qui nous motive à aller de l'avant. Et ça nécessite la grâce, parce qu'il y a encore du travail en toi et moi. Et pour preuve, on est là ce matin. Donc il y a encore du travail. Je vous invite à prier. Seigneur, on veut te remercier pour ta grâce envers nous. Seigneur, on veut te remercier pour le fait d'être venu dans nos vies, nous avoir attirés à toi, d'être mort pour nous, afin de nous réconcilier avec toi, de nous faire entrer dans ton intimité. Et c'est vrai, Seigneur, on a soif de ton intimité, soif de vivre avec toi. Et Seigneur, je veux te remercier aussi pour ce rappel que notre intimité avec toi ne se vit pas simplement dans une sorte d'extase, de déconnexion de la réalité, mais s'inscrit dans notre quotidien. Et Seigneur, je te prie vraiment de nous aider à redonner du sens, à redonner ton sens dans nos vies, à redonner ton sens dans nos activités, ton sens dans nos relations. Seigneur, de pouvoir à nouveau considérer, Seigneur, que tout ce que tu nous as donné d'être et de pouvoir faire, tu nous l'as donné pour notre joie, c'est vrai, mais aussi afin qu'on puisse vivre cette intimité avec toi, cette joie de te servir dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous faisons, mais également de pouvoir te révéler. Alors Seigneur, je te prie vraiment de réorienter nos vies, de nous montrer, Seigneur, ce qui te déçoit, ce qui te peine dans nos vies. Que tu puisses montrer, Seigneur, nos idolâtries, le culte du moi. Que tu puisses révéler, Seigneur, nos haines, notre orgueil. Afin que nous puissions nous laisser toucher par toi et nous laisser travailler par toi et décider d'obéir à ta voix pour te servir dans ces domaines-là aussi. Seigneur, on veut te remercier à cause de cela aussi pour les épreuves, les difficultés, les moments pénibles de notre vie que tu nous donnes dans ta bonté pour continuer à nous transformer. C'est vrai, Seigneur, c'est pas facile, mais Seigneur, on veut te remercier parce que tu fais cela, parce que ton but pour nous est tellement plus grand, nous rendre semblables à toi. Et Seigneur, donne-nous de garder les yeux fixés sur ton objectif, afin de répondre favorablement à ton appel et à ta transformation. Je te prie cela au nom de Jésus-Christ. Amen.